Lizzie présente Les grandes décisions de l'histoire de France. Sous la direction de Patrice Guénifé et François-Guillaume Lorrain. Lu par François Hatt. Chapitre 1. Le couronnement de Charlemagne, 25 décembre 800. Naissance de l'identité française, par Georges Minois. Une identité nationale se bâtit sur des mythes, qui s'avèrent beaucoup plus flatteurs et ancrés dans l'imaginaire collectif que dans la sévère réalité, souvent peu glorieuse. À cet égard, le couronnement de Charlemagne constitue un cas d'école. En effet, celui-ci se fait couronner comme empereur romain à Rome, alors qu'il est roi d'un peuple germanique, les Francs, né en territoire allemand, parlant un dialecte germanique, le haut-allemand. Par ailleurs, il a passé toute sa vie entre la Vizère, le Danube et la Meuse, et sa capitale, Aachen, Aix, se situe dans l'Allemagne actuelle. Enfin, sa vie est connue par le récit d'un moine allemand de Fulda, Eginhard. Par quel miracle cet événement bien peu français est-il devenu un élément constitutif, presque fondateur, du roman national? Cet épisode illustre à quel point ce dernier résulte d'une construction idéologique qui s'élabore au cours de l'histoire en fonction de l'évolution du contexte politique. Ce que confirme le dernier avatar du mythe, qui depuis un demi-siècle a changé de statut, prenant une signification européenne, après avoir incarné la naissance de la France chrétienne et monarchique. Le fait de base est parfaitement connu. Le jour de Noël de l'an 800, à Rome, le roi des Francs, Charles, 58 ans, est couronné empereur des Romains par le pape Léon III dans la basilique Saint-Pierre. À cette époque, Charles est déjà le Grand, Charlemagne. Il règne depuis 768 sur un territoire immense, qu'il n'a cessé d'agrandir au cours de guerres continuelles. 1,2 million de kilomètres carrés, regroupant les territoires actuels de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Suisse, de l'ex-Allemagne de l'Ouest, de l'Autriche, de la Slovénie, du nord et du centre de l'Italie. Il est sans conteste le plus puissant souverain d'Europe, auprès duquel le roi anglo-saxon Offa et les roitelets scandinaves font pâle figure. À l'est, les peuples slaves païens sont refoulés au-delà de la Vizère, et le peuple asiatique des Avars, centré sur la plaine hongroise, est soumis au paiement d'un tribut. Au sud, les arabo-musulmans contrôlent eux aussi de gigantesques territoires, allant de l'Espagne à l'Iran, sous la domination du calife de Bagdad, Haroun al-Rachid, avec qui les relations sont très cordiales. Dans le monde chrétien, un seul souverain serait en mesure de contester à Charlemagne la suprématie politique et militaire, l'empereur byzantin, le Basileus, qui règne à Constantinople. Mais l'Empire byzantin est en pleine crise. Le jeune empereur, Constantin VI, a perdu le pouvoir au profit de sa mère, Irène, qui lui a fait crever les yeux. Les Francs, peuple providentiel. Dans ces circonstances, la puissance de Charlemagne est sans rival. Son titre officiel est « Roi des Francs et des Lombards ». Ces derniers, établis dans le nord de l'Italie, ont été vaincus en 774. Leur roi, Didier, a été destitué et enfermé au monastère de Corbie, et Charlemagne s'est emparé de sa couronne et de son territoire. Mais l'essentiel, pour lui, c'est son titre de « roi des Francs », qu'il a hérité en 768 de son père, Pépin le Bref. Il l'a d'abord partagé avec son frère Carloman, jusqu'à la disparition suspecte de ce dernier en 771, peut-être par empoisonnement. Roi des Francs, c'est-à-dire d'un peuple, plus que d'un territoire, le royaume des Francs. Ce n'est en effet ni la France, ni même la Francie, terme qui n'apparaîtra qu'au IXe siècle. Il s'agit d'une entité floue, mouvante, sans véritable frontière, qui suit les mouvements de ce peuple germanique venu de l'Est pendant les grandes invasions barbares des IVe et Ve siècles, et plus ou moins stabilisé entre la Loire et le Rhin, dans les régions appelées Neustrie et Austrasie, correspondant respectivement au nord-ouest et au nord-est de la France actuelle. Depuis la conversion du roi des Francs Clovis au christianisme vers 500, une mythologie s'était peu à peu élaborée, faisant des Francs un véritable peuple élu, providentiel. Descendants des Troyens, habiles et indomptables, ils auraient été prédestinés à devenir les champions du christianisme en rejetant le joug de la romanité païenne. Telle est la légende que l'on trouve dans le texte du pseudo-Frédégère au VIIe siècle et qui est incorporé dans le prologue de la loi salique, celle des Francs saliens, en 763-764 à la chancellerie royale. On y parle de l'illustre nation des Francs, fondée par Dieu le Créateur, vaillante dans les armes, solide dans ses alliances, profonde dans ses conseils, noble de corps, intacte et pure, d'un physique parfait, audacieuse, forte et indomptable, convertie récemment à la foi catholique, elle qui, alors qu'elle pratiquait encore le paganisme, n'en recherchait pas moins, inspirée par Dieu, les clés de la connaissance et selon le degré de ses mœurs, tendait à la justice et conservait la piété. Vive le Christ, qui aime les Francs. Puisse-t-il conserver leur royaume, remplir leurs dirigeants des lumières de sa grâce et leur accorder le rempart de la foi. Que les joies de la paix et des temps heureux leur soient accordées par le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, dans la piété. Car ce peuple est valeureux et fort. Le joug très dur des Romains, les Francs en combattant, le rejetèrent de leur tête. Et après la connaissance que leur donna le baptême, ils recouvrirent d'or et de pierreries précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient fait périr par le feu, le fer et les bêtes sauvages. Cette assimilation des Francs au peuple élu, agent des desseins du Seigneur, s'était encore renforcée lorsque le dernier roi de la dynastie mérovingienne avait été détrôné en 751 par Pépin le Bref, qui avait pris sa place avec l'accord du pape. Ce dernier avait en effet besoin de l'aide des Francs contre les Lombards, païens qui menaçaient Rome. Et Paul Ier, 757-767, n'avait pas hésité à saluer Pépin comme le nouveau Moïse, le nouveau David, roi excellent, rex praecelsus, excellentissimus, glorieux, gloriosus rex, vainqueur, victor ou invictissimus, très chrétien, inspiré par Dieu, conservé, institué, orthodoxus. Il est même magnus, ce qui est une épithète impériale, utilisée dans les acclamations byzantines. Bref, Pépin est fundamentum et caput omnium Christianorum, base et tête de tous les chrétiens.